Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.
Eh bien bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, Gulliver va s'intéresser à un magazine. Ce magazine s'appelle Sans Transition. Comme on peut l'imaginer, c'est un magazine qui s'intéresse bien entendu à l'écologie, à l'environnement, aux problèmes de santé liés à l'environnement, et qui donc en est à son 9e numéro, et c'est le numéro de janvier qui vient de paraître, qui est tout frais, tout chaud, et nous avons le plaisir de recevoir l'un de ses rédacteurs, François Delotte. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, dans ce magazine qu'on a eu l'occasion un petit peu de présenter assez rapidement dans une interview antérieure, mais on va réexpliquer un petit peu les choses, c'est donc un magazine qui est axé sur trois régions, qui n'est pas fait à Paris, ce qui est quand même à signaler, oui. On est décentralisé, et qui donc comporte une partie qui traite de sujets généraux, et une partie qui traite d'un cahier lié à la région d'installation, c'est-à-dire la Bretagne, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie.
C'est bien ça. En fait, l'idée, c'est de lier le local au global. Alors, comme vous l'avez dit, on a 50% du contenu, la moitié du contenu du magazine qui est consacré à des projets locaux, en fait, à des articles, surtout des reportages de terrain, hein, qui mettent en valeur, en avant des initiatives locales positives, qui sont plutôt des initiatives qui vont dans le sens de la préservation de l'environnement ou dans le sens d'une plus grande justice sociale, qui mettent en avant des innovations économiques, ce qu'on appelle souvent, dans le champ de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Et puis, une autre moitié qui est plutôt composée de grands dossiers, d'enquêtes qui posent les enjeux, on va dire, aujourd'hui du développement durable et solidaire, de l'écologie, qui permettent d'aborder aussi des problématiques, des choses qui posent problème aujourd'hui, hein, évidemment, hein, mais aussi toujours en les replaçant plus ou moins dans une perspective positive, dans la mesure où on essaie toujours de donner des pistes de solutions.
Ouais. Alors, précisément, donc dans ce numéro 9 de janvier, donc, qui est actuellement dans le kiosque, vous proposez vous-même deux articles, deux papiers assez passionnants. Alors, un, on en parlera tout à l'heure, qui est plus classique, mais il y en a un qui est très original, c'est-à-dire que vous êtes rendu à Nîmes.
Tout à fait.
Et à Nîmes, vous êtes rendu compte que... on faisait du design, mais alors pas du design au sens stéréotypé du terme. C'est toujours les couverts de Stark ou le nuage ici à Montpellier qu'on a qui a été emballé par Stark. On n'est pas dans cette dimension-là, on est dans un design social, un design d'usage qui se pratique donc à Nîmes. Explique-nous un peu cette chose-là.
Alors, tout à fait, on peut dire aujourd'hui que Nîmes est un peu la capitale française du design social. Alors, je crois que peu de gens le savent. Déjà, peu de gens savent ce que c'est que le design social. C'est pour ça que...
C'est presque deux mots antagonistes, d'ailleurs, en termes de stéréotypes.
Oui, alors effectivement, bon, alors moi je suis pas spécialiste du design, mais le design c'est de toute façon dans les esprits associé surtout à l'objet, à quelque chose de concret, rendre un objet pratique, facilement utilisable, et aussi le rendre attractif, pour faire en sorte que les gens l'achètent, hein, en gros. Bon, même si c'est pas que ça, et certainement plein de spécialistes pourraient me contredire, c'est plus complexe. Mais ce qui se fait à Nîmes, ce qui se pratique, notamment via une formation universitaire et un laboratoire universitaire, c'est ce qu'on appelle le design social, donc c'est-à-dire un design qui va avant tout penser l'usage en fait de services Ça peut être des services publics, mais pas nécessairement, avec les futurs usagers de ces services. Alors, ça peut être, par exemple, à l'hôpital public, créer un espace dédié aux familles qui accompagnent, aux familles des malades, des patients. Voilà comment faire en sorte que ce soit plus accueillant, parce que ce sont des endroits où on passe du temps. Ça peut être avec la région Occitanie, comment est-ce qu'on va penser de nouveaux services publics avec des usagers, mais aussi avec les fonctionnaires, avec les agents de la collectivité, mais aussi penser comment accueillir mieux les usagers des services publics. Alors ça peut donner lieu à la création d'objets, mais pas nécessairement, mais sachant que les objets, quand ils sont créés, ils sont toujours créés dans cette optique de répondre à un usage. Donc il faut à chaque fois intégrer les futurs usagers. Alors j'ai rencontré notamment deux agences de design social. Une qui s'appelle La Bobine, qui a été créée par deux jeunes femmes à Nîmes et qui sortent du master design social, et un autre par deux jeunes hommes qui s'appelle Étrange Ordinaire. Et également, ce sont deux anciens de ce master. Et j'ai pu aussi échanger avec le directeur Stéphane Vial, le directeur de cette formation universitaire, et voilà qui, dans cette interview, replace un petit peu le design social dans son contexte et en donne une définition. Je crois que on peut, en tant que citoyen d'Occitanie, être fier de cette cette innovation qui est portée à Nîmes. Regardez ça de plus près, puisque aujourd'hui, les gens des agences qui ont monté ces agences à Nîmes travaillent dans toute la France, et c'est quelque chose qui monte.
Alors c'est rigolo, parce qu'à titre d'exemple, on n'imaginerait pas que ça puisse avoir lieu. Il y a un design qui porte sur la signalétique, sur le fait que comment se déplacer dans un hôpital et mieux se déplacer, trouver les bons endroits et tout ça. J'étais surpris de penser que ça faisait l'objet d'un tel travail. Et au fond, quand on y a été soi-même sujet, oui, on se dit que ouais. Oui, peut-être qu'il y a de gros efforts à faire dans ce domaine.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est de travailler et de considérer en fait les usagers, les gens qui pratiquent les lieux, comme des gens qui savent, enfin, et qui connaissent peut-être mieux que quelqu'un qui a priori est expert d'un sujet global, les problématiques. Alors ça peut être le cas effectivement pour le déplacement, la signalétique dans un hôpital ou un autre,
bâtiment.
Mais par exemple l'agence La Bobine à Nîmes a travaillé avec une doctorante en environnement, je crois, ou géographie, sur les crues, et notamment en intégrant des populations qui sont sujets justement à ces crues, et savoir comment est-ce qu'à un moment donné, on peut mettre les habitants en sécurité, les animaux, et c'est ce reposer aussi sur cette expertise que peuvent avoir les gens, quoi, les citoyens, en fait, tout simplement. Hein.
Alors, donc, voilà, c'est l'un des articles de ce numéro que vous signez. Alors, il y en est un autre qui est alors plus, on va dire, on tombe plus dans la santé publique, quasiment, oui. Puisque ça concerne l'ALU. Alors, on se souvient, alors j'avoue avoir été un peu effaré aussi, là, en me souvenant le nombre de fois où on a pu plier de la nourriture dans du papier alu, qui n'avait pas son distributeur de papier alu fixé au-dessus de son évier, qui ne mettait pas des objets, de la nourriture dans un papier alu et dans son réfrigérateur. Donc, c'était un usage quasiment courant, quotidien. Et puis là, quand on vous lit, on prend peur, parce qu'on se dit... alors, de l'alu, d'abord, il y en a partout, oui. Quasiment. On s'en flanque dans les cheveux, on en ingurgite. C'est effrayant, quand même.
Oui, alors, justement, j'ai pu interroger plusieurs chercheurs hein, pour faire ce dossier sur l'aluminium. Et l'un d'eux me disait, on est entré dans la civilisation de l'aluminium. Il y en a partout, effectivement. Bon, alors, le but, ce n'était pas non plus de foutre la trouille à tout le monde et de faire paniquer tout le monde. Puisque, justement, c'était d'essayer de faire un petit peu la part des choses, de mieux comprendre où sont les dangers, puisqu'effectivement, il peut y en avoir. Néanmoins, il ne faut pas céder... à la panique. Bon, le dossier part d'une idée, c'est qu'on entend effectivement beaucoup dire ici et là que l'aluminium, c'est mauvais pour la santé, notamment il faut prendre de déodorants avec de contenants d'aluminium. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Donc, j'ai interrogé un certain nombre de chercheurs qui ont travaillé sur le sujet. Dans le cadre, par exemple, de l'aluminium dans les déodorants, c'est... Voilà, ça peut être effectivement dangereux dans certaines conditions, si les aisselles sont rasées. Il y a un lien qui peut être fait avec le cancer du sein. Bon, je vous invite à lire l'article. Mm-hmm. Je vous dis tout de suite, il ne faut pas non plus céder à la panique. Il y a la question des vaccins qui est extrêmement controversée. Sachant que, bon, je pense, bon, à titre personnel, qu'il faut être très délicat avec ces sujets-là, parce qu'on arrive très très vite vers des pistes de position qui sont un peu paranoïaques ou qui sont plutôt relatives au complotisme. Mais toujours est-il qu'il y a aujourd'hui un professeur qui s'appelle le professeur Guérardi, qui travaille en région parisienne, qui a mis en évidence que dans certains cas, l'aluminium qui est contenu dans les vaccins peut être lié à un syndrome de fatigue chronique, mais c'est mis en débat, c'est critiqué par un certain nombre de ses confrères. Et donc, ce que je vous invite, voilà, je vous invite à lire l'article pour essayer de mieux comprendre l'enjeu. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'y voir plus clair sur ce sujet.
D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ça nous évite les effets de balancier. C'est-à-dire qu'on se dit, avant, c'était tout l'aluminium et on passerait à plus d'aluminium du tout. Grâce à l'article, tout devient plus nuancé quand même.
Oui, voilà, en fait, l'aluminium, vous évoquiez tout à l'heure, justement, le papier aluminium. Alors, on peut continuer à emballer, d'après ce que j'ai pu comprendre en interrogeant des gens, qu'on peut continuer à emballer des aliments avec des feuilles de papier d'aluminium, mais néanmoins, il faut éviter de faire cuire des aliments avec, dans certaines conditions, là encore, avec notamment des produits acides, type citron, tomate, enfin, voilà, des choses comme ça, parce que ça dégrade l'aluminium qui peut se retrouver tout de suite dans l'alimentation. En fait, en gros, l'aluminium, les particules d'aluminium, c'est un métal qui n'a rien à faire dans le corps, qui n'a aucune utilité particulière et qui, peut-être dans certains cas, peut provoquer des syndromes qui ne sont pas souhaitables. Donc voilà, il faut faire attention. Je vous invite à lire
le papier
pour comprendre les enjeux.
Moi, je dois vous dire que pour la petite histoire, je ne ferai plus de poisson en papillote avec du papier alu parce qu'il y avait du citron et que de fait, ça ne le fait plus. Quoi. C'est pas bon.
Il faut éviter, visiblement.
Voilà. Il y a d'ailleurs, à la fin du papier, après le papier, une interview d'un cardiologue qui, sans être très négatif, dit autant éviter, puisque de toute façon, ça n'a pas une utilité absolue. Quoi.
Voilà, en tout cas, ça apporte rien.
Principe de précaution, quoi.
Oui, voilà. Hein? Ouais, vaut mieux éviter quand on peut, en fait. Voilà, c'est ça, hein. Effectivement.
Alors, ça, ce sont les deux papiers que vous publiez sous votre signature, papier d'enquête. Alors, le journal s'ouvre sur une interview que vous avez recueillie récemment à Montpellier, puisque c'était pendant le salon
Energaïa, dédié aux énergies renouvelables. Oui,
voilà.
Oui, tout à fait.
Et c'est une interview de Cynthia Fleury. Alors, pour ceux qui ne la connaîtraient pas très bien, Cynthia Fleury est une philosophe, une jeune philosophe en plus, qui par ailleurs est psychanalyste, qui est expert dans de nombreux cénacles consacrés au rapport de la philosophie de la vie quotidienne. Et elle a publié alors un livre tout à fait passionnant qui va être réédité en poche.
Oui,
alors je prends le papier pour le signaler parce que c'est bien, ce qui s'appelle Les Irremplaçables. Et elle a publié ça en 2015 et donc ça paraît chez Folio en mars prochain. Donc on pourra se faire une idée précise. Mais grosso modo, en fait, ce qu'elle vous dit dans cette interview, c'est que la transition énergétique ou écologique, c'est un véritable changement de point de vue, quoi, hein.
Tout à fait, c'est ça. C'est une autre façon de voir les choses. Elle parle de changement de paradigme, c'est un terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Effectivement, mais ce qui est intéressant de retenir aussi dans cet entretien, puisqu'on revient sur cette notion de transition, hein, c'est qu'elle dit en fait qu'on effectivement, la transition, elle est plus que souhaitable, elle devient impérative. Mais bon, la transition, c'est à la fois un changement de modèle, une façon de produire des énergies via les énergies renouvelables, aussi peut-être créer une économie plus juste et aussi peut-être mieux intégrer les citoyens au processus de décision. Mais que tous ces éléments, en fait... Ils ne vont pas provoquer une baisse de notre niveau de confort, en tout cas une baisse importante. En gros, il y a quelque chose de rassurant dans son discours, c'est-à-dire que voilà, on peut y aller, de toute façon, on doit effectuer cette transition, et ça ne veut pas dire qu'on va retourner à la bougie, par exemple.
C'est ce que je pensais aussi. Et alors, elle a une formule que j'ai trouvée bien intéressante. Parce que souvent, on associe à la transition écologique une certaine, peut-être, rigueur, une certaine, on parle d'austérité heureuse, enfin, de choses...
Oui, la sobriété heureuse de Pierre Rabhi.
Voilà. Hein, et elle dit, elle a une formule que je trouve bien intéressante, elle dit « donner envie aux uns et aux autres de vouloir construire un monde commun différent ».
Oui, tout à fait. Chez elle, il y a ce côté, en tout cas qu'elle met en avant, c'est le rôle de l'imaginaire qui est important, c'est-à-dire vraiment imaginer une autre façon de vivre, de produire, qui peut être tout à fait réjouissante et c'est aussi un horizon dans lequel s'engager. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que on vit dans un contexte qui est marqué souvent, malheureusement, par l'amorosité. Donc, effectivement, c'est aussi imaginer autre chose et laisser de la place aux rêves et à la créativité, je pense.
Laisser la place au désir aussi.
Et au désir, oui, c'est ça.
À l'envie de faire et de faire ensemble. Alors, ça pourrait d'ailleurs être... Vous pourriez le mettre en frontispice de votre magazine, parce que c'est un peu ce que vous faites, d'une certaine façon.
Oui, c'est vrai, c'est un peu ça, oui, effectivement, montrer aussi sur les territoires, montrer que la transition, enfin en tout cas les changements aujourd'hui...
Ont déjà commencé.
Les changements de modèle, ils ont déjà commencé, et ils se font souvent par le bas, sur les territoires, et par des gens qui ont conscience qu'ils s'inscrivent dans un contexte global et de changement général. Enfin, en tout cas, il faut aller vers un changement global positif.
Alors, dans le cahier spécial donc Occitanie, là, on replonge dans le local. Il y a un papier, alors très complet, c'est plus qu'un papier, c'est presque un dossier sur les titrés graines d'avenir. Alors, on sait les problèmes qui se posent, les oppositions entre agriculture industrielle, intensive, oui. Et puis agriculture raisonnée, agriculture plus adaptée. Et donc, au fond, ce papier est traversé par cette espèce de conflit et d'alternance, et à partir de la graine, de la semence.
Tout à fait. Alors, c'est la journaliste qui a signé ce papier, Charline Poulain, qui est allée voir des paysans, des paysannes de la région, qui, en fait, depuis longtemps, s'échangent ce qu'on appelle des semences paysannes, qui sont souvent... Il est interdit souvent de vendre ces semences parce qu'elles ne figurent pas en fait, au catalogue officiel des semences, sachant que le catalogue officiel... des semences pour pouvoir... Enfin, c'est des semences qui concernent les professionnels, hein, les agriculteurs, pas les particuliers.
Pas les particuliers, oui.
Pour pouvoir les... vendre des semences, il faut que ces semences figurent au catalogue. Et pour pouvoir y figurer, ça représente des coûts importants, en fait, d'homologation. Et en fait, ce sont les grands semenciers, dont je ne vais pas citer le nom, mais qu'on connaît tous,
oui.
Qui domine, enfin dont les productions dominent ce catalogue et depuis longtemps il y a beaucoup de petits paysans qui se battent pour qu'ils puissent se vendre entre eux des semences, ce qui n'est toujours pas le cas, en fait. Ou alors ce qui se pratique dans l'illégalité. Et bon, alors on est allé voir des agriculteurs et des agricultrices du territoire qui pratiquent ça. En écho avec une actualité, c'est que, qui n'est plus extrêmement fraîche non plus maintenant, mais on a pu voir aussi la pratique qui se met en place. C'est-à-dire que depuis 2016, il est autorisé de s'échanger. Enfin, les paysans ont le droit en France de s'échanger des semences. Donc, il n'y a pas de c'est pas moyen en finance, mais ça reste c'est de l'échange.
C'est du troc.
C'est du troc, ou ouais. Ça peut être du don aussi.
C'est pas illégal.
Donc, ça n'est plus illégal. Donc, c'est une avancée. Et ce qui est intéressant, c'est que cette avancée, elle a été permise par un amendement d'Icitoyens, c'est-à-dire que il y a deux jeunes gens, dont je vais retrouver le nom parce que c'est pas moi qui ai traité le papier, hein, c'est Jonathan Attias et Alexandre Lombroso, qui ont réalisé un film d'ailleurs sur leur expérience qui s'appelle Déclic de conscience. Et en fait, ils ont fait une pétition en ligne pour que les gens, les professionnels, donc les paysans, puissent s'échanger leurs semences. La pétition a remporté beaucoup de suffrage. Et ensuite, ils ont voulu aller plus loin. Ils sont allés voir un sénateur écologiste, Joël Labbé, qui est un sénateur du Morbihan, et qui leur a proposé, via une plateforme en ligne d'amende, enfin voilà, je vous passe les détails, de créer un amendement citoyen. Les gens en ligne ont pu construire cet amendement. Et Joël Labbé l'a proposé au Sénat, enfin en tant que parlementaire. Et en fait, cet amendement est devenu, a été voté et il est entré dans la loi. Donc du coup, c'est un peu l'histoire aussi, c'est la belle histoire d'un amendement qui a été proposé par des citoyens. Quoi.
Voilà. Sur initiative citoyenne.
Tout à fait, oui.
C'est très intéressant, ça.
Oui, ouais, c'est intéressant, oui.
Ça montre qu'il ne faut baisser les bras sur aucun terrain, dans aucun domaine.
Non. Et après, bon, c'est à mettre en perspective aussi localement, puisque depuis longtemps, ici, il y a une culture paysanne, notamment de lutte, où c'est pour ça qu'on est allé voir les gens ici aussi. Il y a cette pratique d'échange. Les paysans et les paysannes nous ont raconté un peu l'histoire de cette pratique et comment est-ce que ça se pratique, et quel est l'intérêt surtout. Parce que c'est ça, outre l'intérêt de conserver pour les cultures, on va dire, pour l'agriculture, conserver ses plantes et ses semences, c'est un intérêt aussi pour la biodiversité.
La biodiversité, tout à fait, oui.
Et donc, notamment local, ici, on a des plantes qui sont peut-être plus adaptées aussi au climat. Enfin, voilà, il y a toutes ces problématiques qui rentrent en compte aussi.
Et sous-jacent, on comprend qu'il y a aussi un positionnement anti-OGM qui paraît évident, puisque cette diversité, justement, est à l'inverse d'une conception unicentrée qui ferait qu'un seul, pour les industriels, au fond, une seule semence finirait par les résumer toutes.
Oui, bah en gros, oui, c'est le danger, c'est le danger. Et puis, c'est que du coup, le vivant appartienne finalement et soit régulé par des firmes qui ont beaucoup d'argent, quoi. Et effectivement, c'est ça aussi, le problème.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on s'aperçoit, alors ça a été fait ici, en Occitanie, ce qu'on voit, c'est que la culture joue un rôle quand même dans cette manière d'agir. C'est-à-dire que, bon, ils faisaient ce genre d'échange de façon illégale. Aujourd'hui, ça n'est plus illégal. Mais il y a ce petit côté quand même culturel de ce fond de résistance un petit peu, des agriculteurs d'Occitanie.
Ah oui, tout à fait. Oui, bah oui, c'est vrai. Comme je le disais, ici, il y a une culture paysanne qui est quand même solidement ancrée, avec l'histoire notamment de la Confédération paysanne aussi. Et du Larzac. Effectivement, c'est un acte symbolique qui était une sorte de désobéissance civile en soi, de toute façon. On peut le concevoir comme ça. Sachant que, bon, s'il y a eu une avancée avec l'autorisation des semences, c'est toujours interdit de les vendre entre professionnels. Mais aujourd'hui, effectivement, quelqu'un qui va être contrôlé peut-être la répression des fraudes qui intervient à ce moment-là, je ne sais pas, par l'État en tout cas, pourra dire bah oui, mais en fait, ça provient d'un échange. Bon, c'est toujours c'est toujours mieux, quoi.
En tout cas, l'histoire nous montre que ça sera plus facile de trouver ce genre de comportement en Occitanie que dans la plaine de la Beauce.
Probablement, plus que... Oui, oui, probablement. Probablement, oui, oui. Ça, la structure économique et sociale de l'agriculture est, ouais, est complètement, ouais, différente. Ouais.
Alors, on pourrait s'apesantir sur pas mal d'articles, mais enfin, tout ça est assez passionnant. Alors, on va en éviter par défaut quelques-uns, mais pour aller sur le reste, il y a un dossier très intéressant dans ce numéro et qui est là parfaitement d'actualité parce qu'on voit s'ouvrir ici ou là soit des rayons de vrac, soit des magasins entiers qui sont consacrés au vrac. Il y a un du côté de la rue de la Sonnerie où on ne vend qu'en vrac et pas autrement. Donc vous avez consacré un petit dossier à cette mode de la consommation en vrac. Donc plus d'emballage, on fait l'économie de l'emballage. Chacun choisit exactement la quantité dont il a besoin. Alors, il y a à la fois l'économie de l'emballage et en même temps l'économie de la quantité.
Oui. Alors oui, l'idée, c'était effectivement de partir de cette... On parlait de mode, oui, on peut parler d'engouement pour le vrac, de mode, peut-être, oui. Et de savoir pourquoi, en fait. Quel est le bien fondé de cette pratique? Est-ce qu'elle est vertueuse? Quel est l'intérêt? Si oui, pourquoi? Pourquoi consommer en vrac? Comment? À quel prix? Voilà, c'est toutes ces questions qu'on s'est posées. On a essayé d'y répondre. Effectivement, aujourd'hui, il y a une offre qui se multiplie. On le voit dans les centres-villes avec plein de petites boutiques. Indépendante, mais aussi il y a une chaîne, c'est des magasins à taille humaine, hein, qui s'appelle Day by Day, donc qui s'est mis sur ce créneau-là. Et puis la grande distribution aussi, finalement depuis assez longtemps, qui a investi aussi ce secteur, parce qu'il y a une demande. Hein, effectivement, l'idée, c'est de consommer sans emballage ou avec le moins d'emballage possible, sachant que ça provoque l'emballage, effectivement, c'est du déchet. Et donc, du coup, on consomme au poids, évidemment, et puis on amène ses propres contenants à la boutique pour pouvoir les remplir. On a interrogé tout un tas de professionnels du secteur, mais aussi des gens qui ont un regard un petit peu plus critique ou qui ont plus de recul. Ça peut être un économiste notamment qui a interrogé là-dessus. Est-ce qu'on va changer les choses en consommant en vrac? La question du prix, je l'ai dit. Alors, c'est pas forcément plus cher, mais ça dépend de quoi on parle. Effectivement, les choses sont à comparer en fonction de la qualité des produits. Sachant qu'aussi la grande distribution dans notre pays un pouvoir important et notamment de pouvoir de négocier, le pouvoir de négocier des prix. Bas. Ce qui explique que c'est pas forcément moins cher ou beaucoup moins cher le vrac. Mais on peut s'y retrouver. Et
quelqu'un dit que c'est un geste symbolique en fait.
Quelqu'un le dit, oui, je crois que c'est l'économiste. C'est l'économiste, le dit, effectivement. Oui. Il dit que c'est un geste symbolique parce que, lui, il ne croit pas qu'on va changer. En tout cas, parce que l'idée aujourd'hui, on consomme beaucoup dans les grandes surfaces encore. Donc, est-ce qu'on va changer la grande distribution par le vrac? Visiblement non, selon lui. Bon, après, c'est un élément qui permet de consommer de façon vertueuse. Et
de faire moins de déchets.
Et de produire moins de déchets, surtout, effectivement. Après, il faut... Souvent, les produits en vrac sont bio, en plus. Bon, donc du coup, effectivement, par rapport... Si on compare en termes de prix, effectivement, si on achète du vrac bio et comparé à un produit emballé qui n'est pas bio, et ben, ça coûtera plus cher, oui, par exemple. Bon, voilà. Il y a toutes ces questions-là, évidemment, à se poser. On voit qu'en tout cas, ça fait partie d'une mouvance qui vise à consommer mieux, différemment, et à mettre aussi en perspective avec le développement des supermarchés coopératifs. Voilà, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on voit tout un tas d'initiatives qui naissent sur le consommer, autour du consommer autrement.
C'est un signal que quelque chose est en train de changer.
Il y a des choses qui évoluent et il y a des gens, il y a beaucoup de gens quand même. Bon, alors effectivement, c'est peut-être symbolique, mais il y a beaucoup de gens qui se mettent à ces nouvelles pratiques. Donc voilà, pourquoi pas s'y mettre. Et effectivement, ça peut faire, ça mange pas de pain, j'ai envie de dire, mais surtout, je pense que ça peut faire évoluer les choses positivement.
Souhaitons que le symbole fasse tache d'huile et que ça devienne un véritable usage.
Voilà, c'est ça, ouais.
Voilà, eh ben écoutez, on a fait un petit peu un état de ce numéro 9 et le temps passe vite.
Oui.
Merci de nous avoir guidés à travers ce numéro, dont je rappelle donc c'est le numéro de janvier. Il est consacré, le cahier principal est consacré à l'Occitanie, mais pas que.
De janvier et février, puisque c'est un bimestriel.
Ah, c'est un bimestriel, voilà. Oui. Il faut le préciser. Voilà, alors pour ceux qui ne le trouveraient pas, eh ben, sachez que si ce sont des auditeurs fidèles, nous en aurons quelques-uns ici à la radio et qu'ils peuvent passer pour se le procurer si jamais ils ne le trouvaient pas dans les kiosques. Voilà, merci beaucoup.
Ben, merci beaucoup à vous et puis justement, oui, effectivement, de proposer notre magazine à la vente, sachant que oui, c'est pas toujours évident de le trouver en kiosque, on le trouve pas partout, on le trouve aussi dans des magasins bio, enfin, vous pouvez aller voir sur notre site et on peut le commander en ligne.
Voilà, merci beaucoup, merci. Et à la semaine prochaine.
Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.